D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Il y a des pays pour qui la littérature est importante. Ils donnent des noms d'écrivains à leur rue, ils leur érigent des statues. C'est bien, et d'une certaine façon, c'est facile. Ça participe de l'idéologie des grands hommes et ne marque pas bien la différence entre un poète et un militaire. D'ailleurs, les militaires sont toujours mieux servis que les poètes. Comme le dit Victor Hugo à propos de la ville de Londres, pour y avoir une statue, il suffit d'avoir un peu traîné le sabre. Ce qui me paraît encore plus littéraire, c'est de donner à des lieux des noms de personnages de fiction. Ça, c'est vraiment penser que la littérature existe, que la fiction fait partie de la vie au même titre que ce qu'on appelle le réel. Je n'en connais que quelques exemples. Il y a dans l'État de New York un pont Rip Van Winkle d'après le personnage de Washington Irving. Il y a dans la ville de Paris une rue Lucien Leven d'après le personnage de Stendhal. Dans cette lignée, un autre pays littéraire est l'Irlande. Elle a donné le nom d'une journée de fête à un personnage de l'Ulysse de Joyce, Leopold Bloom. Cette date, c'est le 16 juin, où la ville de Dublin célèbre ce personnage par des lectures, des conférences, des rencontres, dans tous les lieux où Bloom, le 16 juin 1904, a fait son odyssée dans la ville. Quel est le secret professionnel du triomphe posthume de James Joyce et du Bloomsday? Pour en parler, je reçois un des plus ardents joyciens français. Il s'appelle Philippe Solers. Philippe Solers, la date du 16 juin 1904 est, je crois, inscrite une seule fois dans le roman, dans la phrase que voici, mais vous me direz si je me trompe, « Miss Dune tapa sur le clavier 16 juin 1904 ». Et je crois d'autre part que Joyce avait une raison très personnelle, biographique, si je puis dire, de choisir ce jour.
Écoutez, cette histoire de Bloomsday est absolument cocasse et n'a jusqu'à présent pas vraiment suscité d'analyse. Pourquoi tout un pays que Joyce a férocement renié au point de choisir l'exil, le silence et la ruse. Pourquoi ce pays se précipite-t-il sur ce personnage de Leopold Bloom pour faire de cette journée un Bloom's Day et non pas un Joyce's Day? C'est très étrange. Donc vous avez d'une part le fait que le nom de Joyce n'est pas inscrit dans la mémoire irlandaise, sauf comme une plaie, parce que, à part Dubliners, à part le fait qu'il est venu de là, il a vraiment voulu quitter le poids assommant et abrutissant de l'Irlande, de ses habitants et de son église catholique. Comme quoi, il n'y a pas plus jésuite que Joyce, nous allons voir ça si vous voulez. Mais, Bloom, dans le roman Ulysse, merveilleux livre à rouvrir sans arrêt, tout simplement, est juif. Et donc, comment se fait-il que les Irlandais donnent à un nom aussi évidemment juif ce jour de fête? Sont-ils tous devenus brusquement philosémites depuis un siècle? Ça serait très surprenant et je ne le crois pas. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt Stephen's Bloom Day? C'est-à-dire qu'il y ait l'autre personnage, puisque il y a deux personnages en Ulysse principaux. Je ne parle pas de Molly Bloom, ça pourrait être aussi Molly's Day, parce que, pourquoi pas, parce que c'est vraiment un événement dans la prose mondiale, hein, un scandale mondial, Molly Bloom.
Je vous interromps une seconde, Philippe Serres, pour préciser que Molly Bloom, c'est évidemment la femme de Léopold dans le roman et que vous faites allusion à son célèbre monologue, n'est-ce pas?
Son célèbre monologue. Vous savez, à peine ponctué, etc., mais j'ai proposé à l'Institut irlandais, plusieurs reprises, de le lire moi-même. C'est-à-dire, puisqu'il a été écrit par un homme, je ne vois pas pourquoi on fait toujours dire ce monologue par une femme qui, en général, bafouille un peu, ne sent pas le rôle. C'est James Joyce lui-même qui a écrit Molly Bloom. Donc, comme Madame Bovary, c'était moi peut-être, disait Flaubert, mais en tout cas, Molly, c'est certainement James Joyce.
Vous ne m'avez toujours pas dit, Philippe Solers, pourquoi ce 16 juin 1904 avait été choisi ce jour-là par Joyce? Car c'est le jour où il a rencontré Nora.
Le jour où il a rencontré sa femme. Bien bien sûr, c'est le jour où ce génie précoce, très persuadé qu'il allait remporter la victoire littéraire ultime, rencontre une femme de chambre, qui est tout à fait analphabète, qui n'a jamais lu d'ailleurs une ligne de lui, mais qui lui est restée d'une fidélité extraordinaire, au point quand on l'a interrogée à la mort de Gide sur le fait qu'est-ce qu'elle pensait de Gide. Elle a répondu, il ne connaissait rien, il n'a jamais lu une ligne de Joyce, mais c'est ça qui est si touchant. Elle a répondu, quand on a eu comme mari le plus grand écrivain du monde, on ne peut pas s'intéresser aux petits.
Elle a dit ça de Gide. Ulysse a paru en quelle année à Paris ?
Écoutez, je crois que c'est tout simplement 1921. Là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Le livre a été interdit dans les pays anglo-saxons jusqu'en 1934, je crois, et était accompagné d'un jugement comme quoi il était scandaleux. Il était saisi aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, etc.
Et en Irlande ?
Et en Irlande, ça n'existe. Vous n'y pensez pas. Bon, alors, à Paris. À Paris, Shakespeare et compagnie, admirable stratégie de Joyce. Pourquoi ? Oh, quelle merveille ! Quel aventurier de génie ! Les femmes sont là, Sylvia Beach, Adrienne Monnier, Shakespeare et compagnie. Et donc, elles tombent sous le charme. Elles étaient lesbiennes tout à fait conventionnelles, n'est-ce pas ? Elles tombent sous le charme de ce type qui ne se prend pas pour rien. Hein. Notez ça. En même temps, très modeste, comme tous les génies. Mais enfin, bon, il les séduit, elle l'imprime. Et Joyce a continué. Il a obtenu de se faire payer par des femmes qui ne comprenaient rien à ce qu'il écrivait. Est-ce que c'est pas fort, ça ?
Elle ne comprenait rien.
Il est vaguement. Et comme c'est beau d'être un aventurier aussi, hein, ce gigolo de génie, d'une certaine façon, qui allait ensuite au Fouquet's donnant des pourboires magnifiques au personnel tout en buvant du vin blanc.
Comment s'est fait la présentation entre Joyce et qui a été le go-between entre Joyce et Sylvia Beach ?
Je pense que ça devait être autour de l'Arbeau. Enfin, tout le monde allait à Shakespeare et compagnie. Bon, donc autour de l'Arbeau, probablement.
Philippe Sœur, vous disiez...
Qui a été le premier traducteur. Un des premiers traducteurs,
puisque d'ailleurs, on dit beaucoup que la traduction a été revue par Joyce, mais ça me paraît une chose de Gallimard pour dire l'auteur a mis la main là-dedans, car...
Ça a été retraduit, il y a quelques améliorations, mais franchement, la traduction reste emblématique.
Oui, car il faut que nous précisions qu'il y a la première traduction française de Joyce, revue en partie par Larbeau, et puis il y a deux ou trois ou quatre ans, je ne sais plus, une nouvelle traduction
voilà,
avec autant,
Jacques Aubert,
autant de traducteurs que de chapitres.
Mais trop de traducteurs, et finalement, ça part un peu, ça n'a plus l'unité que ça devrait avoir.
Est-ce que ce n'est pas une aberration d'avoir choisi...
Il vaut mieux l'avoir en anglais à côté de soi pour le lire, de même pour Finnegan Swake. Toute façon, vous avez là deux documents exceptionnels, dont j'espère que vous allez les faire entendre, c'est le passage où Joyce lit un extrait de Ulysse et un autre où il lit un extrait de Finnegan's Wake, livre qui est réputé illisible, etc. Alors que si on écoute ce qu'il a voulu faire avec la voix, avec la musique, on entend très bien, on voit que tout est très clair. Le premier texte est consacré à Moïse, ni plus ni moins. Vous voyez, Joyce, la modestie extrême, c'est Moïse, n'est-ce pas, qui écrit la loi dans le langage des hors-la-loi. Et s'il était resté en Égypte, eh bien, vous n'auriez pas toute cette histoire de Bible que vous traînez quand même, j'espère, avec vous, jour après jour.
Philippe Sellers, vous n'en sortirez pas comme ça, parce que vous m'avez dit que vous vouliez lire et qu'il fallait lire le monologue de Molly par un homme, puisque Joyce avait été écrit par un homme. Ça veut dire qu'il faut absolument cesser toute représentation des personnages féminins de Shakespeare par des femmes et que ça doit être joué par des hommes, puisqu'après tout, c'était joué par des hommes sous la Renaissance.
Je vous signale qu'au temps de Shakespeare, les femmes étaient jouées par des hommes. Par conséquent, le problème n'a pas lieu d'exister. En revanche, entre-temps, si j'ose dire, parce qu'il y a la fameuse conférence sur Shakespeare dans Ulysse, qui est absolument géniale, Hamlet...
À deux reprises, il passe de Hamlet de manière...
Mais il connaît son Shakespeare, il connaît sa Bible, il connaît...
Voilà, il y a une chose qu'il faut dire, pardon Philippe Sœur, c'est que contrairement à ce qu'on pense parfois, surtout de ces génies qui ont l'air désordonnés, c'est que Joyce était un très bon élève et un brillant érudit.
Écoutez, saint Thomas d'Aquin, sur le bout des doigts. Il y a un grand passage d'Ulysse calqué sur la somme théologique, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est. On pose une question, je vous dis que c'est vrai, que c'est pas vrai, et, ou que c'est vrai, et après je vous démontre point par point que c'est vrai quand même. Enfin, voyez, donc il faut savoir répondre à cette discipline extraordinaire qu'il a acquise chez les jésuites, évidemment. Et c'est, quand il y avait encore un enseignement dit de ce nom, où on apprenait le latin, le grec, qui me semble très menacé aujourd'hui pour l'école française.
Merci, cher Philippe Solard. J'ai fait, il y a quelques semaines, une émission de Secret Professionnel en tentant de défendre cet enseignement si attaqué. Philippe Solard, ce qui est frappant, c'est qu'on pense toujours que, rétrospectivement, une fois que des noms sont devenus glorieux, comme celui de Joyce, ou Proust d'ailleurs, leur gloire a été immédiate. Or, pas du tout, ça a été très lent. Quand est-ce que la vraie gloire, ce qu'on appelle la gloire, évidemment il était connu par 100 personnes, mais qui est peut-être la vraie gloire et ce qui nous intéresse, mais quand est-ce que son immense popularité est advenue ?
Je préférerais poser la question de ceux qui l'ont combattu tout de suite.
D'accord.
Et qui se sentent que, absolument dissous, liquidés.
Qui l'a combattu ?
Qui l'a combattu ? Mais pratiquement tout le monde. Gide, Fauchéder, les surréalistes, pas question de reconnaître Joyce. La solitude de Joyce à Paris. J'ai fait un jour une intervention pour souligner toutes les adresses parisiennes de Joyce. Il y avait la stupéfaction dans la salle. Personne ne voulait savoir que Joyce avait vécu pendant 17 ans à Paris, en allant au Fouquet, c'est ça, en voyant très peu de monde, en étant tout à fait concentré sur son travail, malgré ses ennuis de santé qui étaient extraordinaires,
la perte
de la vue, les opérations, sa fille folle, etc., etc. Bon, et les adresses de Joyce à Paris, il faut faire un tour opérateur, Joyce Day à Paris, où on ira se recueillir devant toutes les adresses de Joyce.
Où vivait-il à Paris principalement ?
À Paris, il a vécu un peu partout. Et pour ça, vous avez un livre magnifique qui s'appelle Joyce, oui, de Gisèle Freund.
Ah oui, bien sûr.
La grande photographe Gisèle Freund.
La seule photo en couleur de Joyce, c'est elle, n'est-ce pas ?
C'était une femme admirable que j'ai bien connue. J'ai une photo d'elle d'ailleurs où j'ai l'air d'un mafieux napolitain qui est très réussi. et elle a. Elle a quitté l'Allemagne nazie, vraiment un des derniers trains, 1938, pour arriver à Paris, de Francfort à Paris. Et c'était pour voir qui, jeune photographe, Mr. Joyce. Elle disait toujours Mr. Joyce, voilà. Et donc, ces photos sont éblouissantes. Mais il n'y avait personne, elle le suit dans Paris, voilà.
Nous allons maintenant entendre James Joyce dans un enregistrement très rare de sa voix. Il y lit un extrait de son Finnegan's Wake, alors qu'il en était dans les premières années de son écriture. L'enregistrement date de 1929.
Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashy. Feel-o, feel-o. What age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I rare one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aixley Fames. Ping, pang, there's the bell for sex alighters. At Concepta they send the spray. Pang. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Amen. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip, spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Flap. It's what I'm doing, spread. It's churn and shield, their went is rising. I'll lay a few stones on the hostel sheets, a man and his bride embrace between them, else I'd have folded and sprinkled them only. And I'll tie my butcher's apron here. It's suety yet, the strollers will pass it by. Six shifts. 10 kerchiefs, 9 to hold to the fire, and 1 for the code, the convent napkins, 12. 1 baby shawl. Could Mother Joseph know, she said. Whose head? Mother Snow's. They attach it. Where now are all her children, say? In kingdom gone.
Puisque on vient d'entendre, Philippe Solers, un extrait de Finnegan's Wake qui passe pour un livre illisible. Je crois qu'on ne réussira jamais à faire un sort sur cette question. Au fond, je pense fausse de l'illisibilité, car probablement, d'une certaine façon, Joyce a voulu que son livre ne soit pas lu ou soit une espèce de réitération permanente, que la question de la lisibilité est peut-être une question petite bourgeoise. Et d'ailleurs, Ulysse est un roman parfois compliqué à lire parce qu'il faut des références et qu'il faut être un peu cultivé. Mais enfin, c'est pas si compliqué à lire que ça, ou je me trompe?
C'est très clair à partir du moment où on reste éveillé. Ce sont des livres d'éveil, Finnegan's Wake. Ce sont des livres faits pour éveiller le lecteur. Joyce a dit en termes de plaisanterie, je vais donner du travail aux universitaires pour 3 siècles. Quant à Ulysse, ça a eu un succès foudroyant, et vous avez encore des écrivains anglo-saxons pour la plupart qui disent qu'après tout, c'est pas si important que ça, et que Finnegan's Wake est un ratage, et qu'après ça, on voit pas ce qu'il aurait pu faire. Il l'a dit, il serait revenu à quelque chose de très simple, peut-être, mais enfin, il est mort. Il a aussi dit que sans l'aide, c'est ça qui est drôle. Vous savez ce qu'on a trouvé sur sa table de nuit après sa mort? On a trouvé deux livres. Hein. Je suis un dictionnaire de grec. Vous voyez, comme ça paraît loin. Qui sait qui va faire encore du grec?
Panagio Belkacem.
Voilà. Et même Voltaire devient facultatif. Donc, nous voilà bien. Et sur sa table de nuit, il y avait un dictionnaire des Grecs. Et surtout, c'est très émouvant, un livre qui, je suis disciple de Saint Patrick. Saint Patrick est le saint qui a évangélisé l'Irlande. Vous voyez, quand même, ça, deux poids, deux mesures.
On peut quand même reconnaître que dans Ulysse, il y a des scènes insupportables. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu, la scène du bordel est pour moi insupportablement longue, non pas qu'elle soit illisible, mais parce qu'elle est trop longue. C'est-à-dire quand il nous fait 100 pages de parodies un peu, Alfred Jarry, tout ça, au bout d'un moment, on a compris. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que c'est quand même insupportablement
long. C'est un long délire qui sert à comprendre pourquoi peut arriver à la fin Molly Bloom. Hein, c'est pas, vous avez des travestissements, des changements d'identité, des métamorphoses, et c'est en effet assez ardu. Ce que je préfère dans Ulysse, c'est tout le début où sont évoquées les différentes hérésies, où on voit que Joyce était un théologien de fond, et la fin, la marche avec Stephen dans Dublin, les questions et les réponses, Saint Thomas, et puis l'extravagant, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a fait ça, je crois, dans l'histoire, le monologue de Molly Bloom, bon, qui est un chef-d'œuvre.
Oui, il s'était inspiré, il l'a reconnu lui-même, du monologue de Édouard Dujardin dans Les Lauriers sont
coupés. C'est ce qu'on a dit. Mais
il l'a dit lui-même, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il l'a dit. Mais c'est un, vous savez que c'était plein d'humour. Il a pu vous dire ça. N'empêche que si Dujardin avait été capable de pénétrer, si j'ose dire, dans la substance même d'une femme comme Molly, ça se serait su.
Il y a une chose qui n'est pas faite je crois que c'est dans Discours parfait, Philippe Soler, vous avez traité, je le dois pour l'exactitude historique, vous avez traité le Bloomsday de Mascarade. Et dans cette... D'ailleurs, probablement, dans un monde idéal, vous avez raison. Mais si on veut que la littérature soit dans la société, est-ce que ces mascarades ne sont pas, au fond, utiles? Est-ce qu'il ne faut pas s'y plier? Après tout, vous êtes allé à la télévision parler, et je présume que vous n'adorez pas la télévision. C'est pour être dans la société. Donc, est-ce qu'au fond, ce Bloomsday n'est pas excusable?
Être ensemble. Non, enfin, moi j'y vais, oui, à la télévision, la preuve, je suis là avec vous à la radio, je suis ravi. Mais enfin, je ne viens pas avec une foule énorme au nom de quelqu'un d'autre que le mien.
Une chose qui n'est pas faite dans Bloomsday, où il y a des conférences, etc., des lectures où on parle de tout, c'est que une chose qui est systématiquement éviter, c'est assez amusant, c'est la scène de masturbation. Est-ce que ça veut dire que... Alors, il faut... Expliquez-moi d'abord ce que c'est que cette scène de masturbation.
Alors, cette scène est extrêmement importante. Vous savez que Philip Roth, lorsqu'il a écrit Portnoy et son complexe, bien après, se faisait gifler dans la rue. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, n'est-ce pas, les Juifs ne se masturbent jamais, c'est clair. Et donc, là, c'est une transgression admirable. C'est Bloom qui regarde de loin des femmes qui ne se doutent pas qu'il est en train de ce fourrager, n'est-ce pas? Et c'est très, très, très beau, tellement c'est retenu, discret, distancié. Ça n'a rien à voir avec la pornographie, de même que le monologue de Molly non plus, n'est-ce pas? C'est très, très, c'est ça qui est fort.
C'est allusif.
L'allusion est toujours plus forte que les gros mots lourds de ce qu'on appelle la pornographie, bien entendu, ou l'érotisme supposé faiblard. Donc Joyce est un virtuose, il sait très bien de quoi comment faire.
Mais les puritains, moyennant quoi, ont l'œil avisé et ils ont vu tout de suite que c'était tout allusif qu'était Joyce, ont vu tout de suite qu'il y avait ça.
Oui, c'est vrai, ils ont vu, mais c'est comme Monsieur Pinard, vous savez, tout de suite, et Madame Pinard surtout, ont tout de suite vu dans les Fleurs du Bal des choses épouvantables, alors que c'est d'une poésie grandiose.
Madame Pinard était dans l'affaire?
Alors,
nous parlons du procureur, n'est-ce pas, ou de l'avocat général qui a requis contre Voltaire.
Mais que croyez-vous qu'il est arrivé? Le procureur Pinard, tout excité le soir, lisait des extraits des Fleurs du Mal à Madame Pinard qui lui disait « Oh chérie, arrête, c'est trop chaud
!» Et donc, pour en revenir à cette scène de Bertie McDowell, je crois, qui se masturbe au bord de la mer et que Bloom regarde, et qui est donc esquivé par le Bloomsday, est-ce que ça veut dire que toute littérature...
Vous voyez pourquoi? Parce que les Irlandais, avec leur Bloomsday à la con, ne veulent pas savoir que Bloom est juif.
Et ils ne veulent pas savoir qu'il y a de la masturbation non plus, car après tout, juifs ou pas, ils sont catholiques, et les catholiques ne se masturbent pas beaucoup non plus, officiellement.
Oui, officiellement. Quoique, vous avez vu ce grand mouvement du peuple irlandais pour reconnaître le mariage pour tous par référendum.
C'est pour éviter la masturbation.
Vous croyez? Je vous laisse responsable de cette déclaration.
Est-ce que, Philippe Soler, c'est ce que tout ça ne veut pas dire qu'au fond, toute littérature, à partir du moment où elle devient ou publique ou populaire, c'est une catastrophe parce qu'on croit que c'est bon pour nous, parce que précisément ça se répand dans le public, mais immédiatement la pruderie qu'on avait fuit en faisant de la littérature, reprend le dessus et nous cache ces choses-là.
Elle reprend toujours, elle est éternelle. La pruderie est à la source des sociétés humaines, c'est évident. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que t'es un grand écrivain, vraiment, ce qu'on appelle un grand écrivain, ça veut dire une œuvre considérable, parce que, oui, le travail de Joyce, les manuscrits ont été publiés, il faut voir ce que c'est, que notamment les dessins qu'il fait du fœtus des premiers jours de l'embryon jusqu'à la... Voilà, jusqu'à la fin. C'est magnifique, d'ailleurs, il a écriture magnifique, graphie. Un grand écrivain est une catastrophe pour son pays, pour sa nation. Après ça, il y a toutes les hypocrisies que vous voudrez. Et après, on peut faire des funérailles nationales, des panthéonisations ridicules ou n'importe quoi. Mais enfin, au départ, c'est toujours une catastrophe. C'est Baudelaire qui dit ça, d'ailleurs, un grand homme est une catastrophe pour sa nation, puisqu'il a résisté à toute sa nation pour être.
D'ailleurs, dans ce que vous dites des lettres de Joyce, il y a des lettres très, très touchantes de Joyce où on le voit écrire à des amis en Irlande pour leur demander est-ce que dans telle rue de Dublin, on peut enjamber un portail? Est-ce qu'il est d'une hauteur suffisante? Il était d'un sérieux...
Précision. Le détail qui compte, parce que c'est Nabokov qui disait ça... Un grand livre de littérature, c'est une démocratie de détails. C'est très beau, vous comprenez, parce que s'il n'y a pas cette démocratie de détails, c'est pas la peine. On fait des essais, on fait de l'idéologie, mais c'est pas la littérature, c'est pas la poésie.
Quand est-ce que vous, Philippe Soler, vous avez découvert et à quel moment Joyce, vous vous rappelez ça?
Oh, j'ai tout découvert à la fois.
Mais c'était sûrement pas au lycée ou ça n'existait pas au lycée.
Oui, 14, 15, 16 ans, ça commence. Je peux vous dire dans l'ordre, ça a été Baudelaire, un choc énorme, Rimbaud, bien sûr. Proust, oh là là, j'avais peur de finir le livre tellement c'était beau. J'ai presque pleuré lorsque j'ai eu fini. Alors évidemment, je relis. Joyce est arrivé très vite aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà.
Mais c'était dans la bibliothèque de votre famille?
Pas du tout. La bibliothèque de ma famille, il y avait très peu de choses. Ma mère lisait un peu. C'est elle qui a rapporté Proust et que j'ai pu lire pour comme ça. Mon père ne lisait pas grand-chose. Non.
Et vous ne vous rappelez pas qui a été l'intercesseur pour vous de Joyce?
Non, c'est
le bruit de la littérature.
Vous savez ce qui m'arrive souvent, c'est que les livres veulent me rencontrer. C'est drôle, c'est un peu magique. Je me rappelle pas chercher vraiment un livre, et les livres se présentent. Par exemple, je suis dans une, à 15 ans, 16 ans, je suis dans une vieille librairie poussiéreuse de Bordeaux. Il y a un livre par terre prêt à être jeté. C'est l'expérience intérieure de Georges Bataille. Je le prends, je l'ouvre. Oh mon Dieu, qui c'est celui-là? Personne m'en avait parlé. Voilà. Et les livres sortent de la bibliothèque et veulent rencontrer quelqu'un. Comme c'est curieux. Les lieux, pareil. Les lieux veulent rencontrer quelqu'un.
Mais est-ce que c'est si curieux que ça? Est-ce que quand on est écrivain, nos lectures ne sont pas des appels ou des venues de ce qui nous ressemble, au fond? On croit être libre et ouvert et nous cherchons à l'être, mais au fond, est-ce que nous n'allons pas, comme aimantés, vers uniquement ce qui est nous?
Non, je crois pas. Je crois que c'est la technique. Comment ils ont fait? Comment c'est fait? Comment c'est fabriqué? Oh mon Dieu, mais comment il est arrivé à ça? Bon, alors évidemment, ils ne vont pas faire pareil, bien sûr. Mais pour être assez dur, c'est vrai en peinture, c'est vrai en musique, c'est vrai en art, tout simplement. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est ce que se demandait Picasso par rapport à tous les peintres du passé. Enfin, comment est-ce qu'on a pu être le Greco, hein? Enfin, vous voyez. Bon.
Quelle peut être la mauvaise influence de Joyce? Vous parlez de l'imitation, évidemment on connaît des imitateurs, et imiter ne sert à rien sinon à perpétuer posthumement la gloire de ces gens-là. Il y a eu des faux Proust et des faux Joyce,
ça pullule.
Oui, mais sinon quel peut être le danger? Il y a toujours un danger positif et négatif en lisant un écrivain. Quel pourrait être le danger négatif de lire de Joyce?
Ce sont des gens, tout Joyce comme Proust, ce sont des personnages extraordinairement intelligents. Donc le danger, c'est de ne pas être assez intelligent pour avoir un antidote, pour ne pas être dissous et péniblement épigonal ou pour ne pas s'ager, voilà. C'est très 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 intelligent. Alors, je crois que c'est plus important de dire ça que de parler de littérature. Ce sont des gens très intelligents. C'est ce que disait Picasso à propos de Manet. L'intelligence éclate dans chaque touche de Manet. Je crois qu'il faut reparler de l'intelligence.
Est-ce que ça voudrait dire que paradoxalement, on mesure un grand écrivain au plus grand nombre de conneries qui ont été écrites sur lui?
Oh, écoutez.
Parce qu'on n'écrit jamais de conneries sur Paul Guth, par exemple.
Je ne crois pas, mais je vais me féliciter, si vous voulez.
Allez-y, ça fait longtemps.
Si vous voulez mon dossier, vous le mettez dans l'ordinateur, il fume.
Pour finir, Philippe Solers, ma dernière question. Est-ce que la chose la plus difficile de Joyce, pour un lecteur français, c'est qu'il n'est pas français? Et c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'esprit d'un français, qui est la symétrie, la logique, l'esprit voltairien que nous aimons beaucoup, mais crée une espèce de barrière qui est plus difficilement franchissable pour un français.
C'est ça qui est haïssable chez les français, c'est qu'ils se sentent français, étroitement français. D'ailleurs, comme ils ne le sont plus du tout, ils sont très perturbés. Ils se sont tellement sentis français. Mon Dieu, c'était la grande nation, rappelez-vous, pour les Allemands, quand il y avait Napoléon, etc., vous voyez le désastre. Bon. Et donc, ils ne se sont pas eux-mêmes sentis assez étrangers aux français pour inventer quelque chose. Voilà. Donc, tant pis pour eux.
Dernière question, Philippe Solers. Est-ce que finalement, malgré ce que nous venons de dire, il n'a pas existé un Joyce français, mais il y a bien longtemps, qui s'appelait Rabelais?
Je crois pas. Rabelais, vous avez besoin d'une transcription, d'avoir les deux.
Bien sûr, mais dans l'esprit, les parodies, la grande intelligence, l'esprit.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais Rabelais manque de vice, ce qui est absolument extraordinaire chez Joyce. Voilà. Rabelais, à la limite, c'est une sorte de bien naturel. C'est admirable, bien sûr. Et la dive bouteille, Dieu sait que Joyce l'a pratiqué, la dive bouteille. Mais c'est trop, c'est une autre époque. Joyce a un vice très, très précis, très bien. Proust aussi.
Quel est ce vice?
C'est la connaissance sexuelle, bien entendu, comme connaissance.
C'était Secret Professionnel, le 179e. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierrick Charles. Dans un instant, Ville Monde.